à tous. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est actuelle. Relancée par l'affaire Weinstein, la question de l'égalité homme-femme sera aussi à l'honneur cette année de la Nuit des Idées. Ambassadrice de l'événement, l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Elle sera avec nous à partir de 12h55, après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, une femme discrète mais influente, figure des lettres turques, dans « Dialogue sous les remparts » qui vient de paraître chez Phébus, Oya Baydar revient sur ses combats politiques et littéraires. Ancienne militante marxiste, sociologue spécialiste de la question ouvrière, puis journaliste passée par la case prison, exilée en Allemagne, elle vit aujourd'hui en Turquie. De passage à Paris, elle est notre première invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Oya Baydar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour aussi à votre voix française, une voix masculine, Alijan Tagla. Bonjour.
Bonjour.
Ce soir se tiendra la troisième nuit des idées. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Oya Baydar? Le crépuscule des intellectuels ou au contraire un temps calme, la nuit, un temps propice au débat et à la circulation des idées? C'est un événement qui s'appelle comme ça, la nuit des idées, où on va toute la nuit débattre, discuter des intellectuels qui vont porter leurs paroles haut. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette idée de nuit?
Je n'étais pas au courant, en réalité. La question est venue comme ça. Et sanıyorum ki intellectuellerin her zamandan daha fazla.
Les intellectuels ont besoin plus que toujours d'être en contact entre les uns avec les autres.
Même la nuit.
Même la nuit.
Il peut se passer plus de choses la nuit que le jour dans la libération de la parole.
Evet, geceler belki daha elverişlidir.
Oui, les nuits sont sûrement plus propices à la parole.
À la Gaîté Lyrique aura lieu ce soir la nuit de la presse, c'est le pendant de cette nuit des idées. Sur le coup d'État manqué à l'été 2016 contre Erdogan, vous écriviez, Oya Baydar, dans une tribune, que c'est une bénédiction de Dieu pour lui, Erdogan, une malédiction du diable pour la Turquie. Est-ce que cette malédiction s'est confirmée?
Oui, la malédiction s'est confirmée. Avec Derek, daha fazla.
Et en plus, ça continue de s'empirer chaque jour qui passe.
Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye son
surtout cette dernière opération militaire de la Turquie vis-à-vis de la Syrie.
Şey qu'on appelle l'opération Rameau.
Oui. Donc ça continue vraiment à être encore pire.
En quoi?
Bir yandan
d'un côté, il y a la question. La haine des Kurdes en Turquie s'est encore plus approfondie. Et d'un autre côté, la question démocratique était déjà très problématique. On ne peut plus vraiment considérer la Turquie comme un état de droit. Je dirais même plus, on ne peut même pas la considérer comme un état de loi. C'est une situation d'arbitraire.
Et
c'est impossible à savoir ce qu'adviendra le lendemain.
La Turquie a lancé le 19 janvier dernier, vous l'évoquez, cette opération Rameau d'Olivier contre les Kurdes de Syrie, et voilà qui réveille une fois encore, si tant est qu'il était besoin de le faire, cette question kurde qui est comme une épine dans le pied fort de la Turquie aujourd'hui. C'est cette question qui est aussi au cœur de votre roman « Dialogue sous les remparts » Oya Baydar, qui est un échange, un dialogue entre deux voix, une voix de femme turque et une voix de femme kurde. Elles échangent l'une et l'autre sur leurs conditions, sur leur vécu, sur leur combat. Voilà ce que dit à un moment la voix turque. Il m'a fallu du temps pour me comprendre, comprendre que la trahison consistait non pas à alerter, clamer haut et fort ce qu'on pensait, mais à garder le silence. Les livres, Oya Baydar, restent pour vous la meilleure tribune pour s'exprimer aujourd'hui encore, en Turquie, mais pas seulement.
Oui, on peut toujours écrire encore, mais parfois ça nous coûte très très cher. Les interlocuteurs dans ces dialogues, cette personne a été incarcérée il y a 4 jours de cela. Mère libérée, j'ai appris que hier soir elle a été libérée.
Yani böyle bir diyalog sürdürmek dahi bir suç.
Même poursuivre ce type de dialogue peut devenir un crime dans ces conditions.
Elle est aujourd'hui aussi libérée, une autre voie de la littérature turque, celle d'Asli Erdoğan, dont le recueil « Le silence même n'est plus à toi » a paru l'an passé chez Actes Sud. Elle était l'invitée de la grande librairie à l'automne dernier. Elle revenait sur ces deux visages qui sont les siens aujourd'hui, militante et écrivaine. Comment les faire cohabiter ?
Well, I mean, I didn't choose.
Bien, je dirais que je n'ai pas choisi d'être là,
to be a political figure, not at all.
Ni d'être un personnage politique, pas du tout.
Imagined myself,
en fait, je m'étais imaginé, ou en tous les cas, je pense être quelqu'un de très passif, de très axé sur elle-même, un écrivain qui n'est pas fait pour la lutte politique.
But then, somehow,
mais,
I mean, in jail,
d'une certaine façon, en prison, je ne pensais pas à résister. Ce n'était pas une décision ou un concept philosophique. Et lorsque je regarde les choses de manière rétrospective, j'ai résisté. C'est venu tout seul, comme l'écriture. Cela découlait d'un besoin réel, d'une lutte réelle pour continuer à poursuivre son existence, mon existence.
So in that way, maybe I don't really deserve to talk on behalf of others.
Et peut-être que je ne mérite pas ainsi de parler au nom d'autres personnes qui poursuivent leur lutte politique en prison, comme les dirigeants politiques, les chefs politiques. Je ne suis moi qu'un écrivain.
Oya Baydar, Asli Erdoğan dit d'elle qu'elle était un écrivain qui n'était pas faite au départ pour la lutte politique. Vous, vous étiez une militante presque avant d'écrire, faite peut-être aussi pour l'écriture. Vous voyez la fiction aussi comme un refuge, plus qu'une tribune.
C'est à la fois un refuge, mais quand même aussi une tribune pour pouvoir exprimer son propos.
Evet, ben baştan beri daha militante.
Mais j'ai toujours été assez militante. Mais j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai gagné une certaine notoriété en tant que romancière à cette époque. Et puis, après les années 60, les conditions ont beaucoup changé en Turquie. Et donc, j'ai rejoint la lutte révolutionnaire.
On disait comme ça. Biz öyle derdik.
Que nous, on appelait comme ça, oui. Et pendant 30 ans, je n'ai pas écrit. Avec la chute du mur de Berlin et la chute du socialisme, j'ai repris mon activité de romancière.
Et maintenant, vous vous sentez complètement romancière ?
Je ne serai jamais totalement romancière. Je suis toujours dans les luttes pour la paix et des activismes similaires. De toute façon, l'aspect littéraire de mes œuvres sont toujours au second plan, malheureusement. Toutes les questions qu'on me pose ont toujours plutôt une portée politique.
On va le faire revenir au premier plan avec simplement ces premiers mots de dialogue sous les remparts. Vous faites vivre le jour et la nuit, et vous faites vivre aussi les saisons, les parfums, les odeurs. Ainsi commence votre dialogue. La neige tombe sur les remparts, sur les roses, sur les pelouses piétinées, les murs démolis, l'asphalte déchiqueté, lente, douce et tranquille comme dans les contes de fées. Une neige toute droit sortie d'une scène de cinéma, digne d'un cliché photographique, d'un décor de théâtre. Neige-t-il en cette saison par ici, alors que les roses d'automne sont à peine flétries? C'est l'ouverture de ce dialogue, et dans « Dialogue sous les remparts », deux femmes, l'une turque, l'autre kurde, échangent sur leur vie et sur leur combat. Elles sont quoi à l'origine, diriez-vous, Oya Baydar, toutes les deux, deux étrangères qui se font face?
Gerçekte iki arkadaş.
En fait, ce sont deux amies.
Ve bir Türk kadın, bir Türk,
il y a une femme turque et une femme kurde. Ce n'est pas très juste de les appeler comme ça.
birçok Kürt'ü temsil eden biri.
Parce qu'il y en a une qui représente beaucoup de Kurdes.
Birçok Türk'ü temsil eden biri.
Et l'autre représente beaucoup de Turcs.
Biz diyaloglar kesinlikle doğru.
Ces dialogues sont totalement véridiques.
Yaşanmış şeyler.
Ils ont vraiment lieu.
Biz oraya 100 kişilik bir aydın.
On est allé en tant qu'un groupe de 100 intellectuels, une centaine d'intellectuels à Diyarbakır.
Sadece yapmak istediğimiz yaşanan
acı olaylardan sonra. C'est après tous ces drames qui ont été vécus.
Dayanışmamızı göstermek.
Leur montrer notre solidarité.
Ellerini tutmak.
Leur tendre la main.
Gözlerine bakmak.
Les regarder dans les yeux.
Siyasi bir hareket değildi.
Ce n'était pas vraiment politique.
Diyalog fikri böyle doğdu.
Et cette idée de dialogue est née de cette façon.
Yine doğru olan bir şey, tamamen yaşanmış bir
ce
şey.
Qui est véridique aussi.
31 Aralık'ta.
Le 31 décembre.
Evlerimize döneceğimiz zaman.
Quand on était sur le point de retourner chez nous.
Kar yağmaya başladı.
Il a commencé à neiger d'un coup.
Havaalanı kapandı.
L'aéroport était fermé.
Ben de o kadar kendimi kötü hissettim.
Et je me suis senti tellement mal.
Surların önünde.
Devant les remparts de la ville,
orada oturdum ve orada
je me suis assise
kar yağıyordu.
Et je regardais cette neige qui tombait.
Ve orada gerçekten bir gül fidanı vardı.
Et il y avait vraiment un bout de rose pâle. Et c'est en voyant ça que ça a commencé.
31 décembre 2015, et cet échange se poursuit jusqu'à mars 2016 au Yabaïdar. Comment les appeler alors ces deux femmes? Parce qu'on sent bien que derrière l'une des deux, il y a vous dans cet échange, mais vous avez fait le choix de ne pas les nommer. Ces deux femmes anonymes qui, quand elles parlent de la situation d'hier ou d'aujourd'hui, ne donnent jamais de nom par ailleurs. Hein. Les figures politiques que vous évoquez ne sont pas non plus nommées. Pourquoi ce choix de l'anonymat, voire de l'abstraction?
Bu bir korunma duygusuyla değil.
C'est pas vraiment pour me protéger.
Bunlar, bu figürler pek çok kişiyi.
Parce que ces figures représentent de nombreuses personnalités, pas forcément des gens spécifiques.
C'est pour ça.
C'est le choix de l'universalité quelque part, peut-être aussi.
Hein? Evet, bu universel.
Oui.
Bakış için.
J'ai préféré une approche universaliste, effectivement.
Dans ce dialogue, Oya Baydar, vous mettez aussi en scène leurs désaccords, ces oppositions, ces contradictions. Est-ce qu'elles sont le reflet aussi de vos propres réflexions, de votre propre tiraillement à vous?
Evet, bu kesinlikle doğru.
C'est exactement ça.
Ben kendimle de yüzleşmek istedim.
J'essaie d'affronter moi-même aussi.
Çünkü sadece acımak, ah Kürtlere çok.
C'est facile de s'apitoyer sur le sort des Kurdes et de dénoncer les atrocités.
Bunun hepimizin içindeki.
Il faut que on affronte que ce que tous les Turcs ont en leur sein.
Bunu ortaya koyabilmek ve
kendimi. Il fallait exprimer ça et affronter cette part de moi-même.
Qui se caractérise par l'emploi du oui mais Oya Baydar. Ces conjonctions, ces mais qui interviennent régulièrement, vous les voyez comme des murs ou comme des ponts dans cette tentative de compréhension entre ces deux femmes? Oui, mais.
Şimdilik bir duvar.
Pour l'instant, il y a un mur.
Ama çok taraflı. Oui, mais.
Mais il y a différentes façons de dire oui, mais.
Köprü olabilir.
Donc on peut même bâtir un pont à partir de oui, mais. Si on est plusieurs à le dire.
Tam anlamıyla kimse haklı değil, kimse
personne n'a totalement raison. Personne ne tient la clé de la vérité.
Pas même vous, aujourd'hui, même après avoir essayé de comprendre. Juste pour nous camper un peu ces deux voix, ce qui les fait dialoguer aussi, s'opposer et se comprendre. Quel dilemme les habite profondément l'une et l'autre, diriez-vous, Oya Baydar?
Celle qui vient du côté occidental de la Turquie.
Herkesin içine işlemiş c'est olan
c'est quelque chose qu'on retrouve au sein de tout le monde, c'est le nationalisme.
Milliyetçilik. Öbür tarafta
de l'autre côté, pour la Kürde,
ezilmişlik duygusunu
c'est cette oppression
isyan.
Et donc cette rébellion face à cette oppression permanente.
Bu iki tarafın birbiriyle
c'est ça
aynı noktada buluşmasını
le point de jonction devient très très difficile à cause de cette différence.
Çünkü Kürt bana baktığı zaman
la Kürt, lorsqu'elle me regarde, elle me voit à travers cette oppression que j'incarne quelque part.
Ben Kürt'e baktığım
alors
zaman,
que moi, quand je la regarde,
ama ben değil, Türk
ce n'est pas vraiment moi, mais le Turc, on va dire.
Değiştim.
Parce que j'ai beaucoup changé quand même depuis.
Ama Türk,
mais lorsque la Turque regarde cette femme kurde,
Kürt'e baktığı zaman, Vatanı bölmek isteyen.
Elle voit quelqu'un qui veut diviser la nation.
Bir düşman demeyeyim ama.
Je ne vais pas dire une ennemie.
Bir yabancı.
Mais un étranger quand même. Elle le considère comme un étranger.
Bu zorlaştırıyor.
Et ça, ça rend les choses très difficiles.
Yapmamız gereken benim yapmak
istediğim. Et ce qu'on doit faire, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre,
bu kitapla da buluşabilmek.
C'est de pouvoir se retrouver.
Et elle vous renvoie aussi ce conflit kurde un peu au visage, comme l'échec de la gauche en Turquie, comme le symbole de la défaite du mouvement ouvrier dans ce monde aujourd'hui libéral, mouvement que vous avez porté, incarné. Ce dialogue, c'est aussi le lieu où il y a Baydar de l'introspection collective, celle d'un peuple, la voix turque, la vôtre, tente de comprendre pourquoi ce rejet, cette discrimination de l'État turc à l'égard des Kurdes, comment ce rejet est devenu structurel, presque inhérent à l'histoire de cette société. Vous, vous diriez aujourd'hui qu'au regard de l'histoire, il y a peu de raisons d'être optimiste pour l'avenir.
C'est vrai. C'est de plus en plus difficile d'être optimiste. Oui, comme vous dites, effectivement, il y a tout ça en nous qui est porté par l'histoire. La gauche turque sur la question kurde a échoué depuis longtemps. La question ouvrière et les questions des classes ont toujours prédominé pour nous. Et les questions identitaires ont toujours été reportées, ont toujours été au second plan. Et à l'origine de cela, quelque part résident toujours les sentiments nationalistes portés par notre éducation et par la société. Donc ce sont des ancrés très profondément à l'intérieur de chaque citoyen.
J'ai le sentiment que le pire reste encore à venir. L'air est chargé d'une odeur de poudre, le sang s'immisce entre nous et ce sang, nous n'avons pas la force de l'endiguer. Nous ne parvenons pas à nous faire entendre, ni en montagne, ni en plaine, et même si certains entendent notre voix, ils ne comprennent pas, nous ne tenons pas le même langage. Il n'y a que ceux qui sont engagés dans la guerre, qui parlent la même langue, eux seuls se comprennent. Oya Bayda, vous dites ce livre est né aussi d'un voyage que vous avez fait, se rendre sur place, aller voir de ses propres yeux, d'où le choix du lieu Diyarbakır, hein, métropole du Kurdistan turc, dans le sud-est du pays. C'est là que cet échange, ce dialogue se noue et se résout entre les ruines et les décombres aussi de cette ville. L'une des voix, la vôtre, dit « Je suis venue pour regarder avec tes yeux, pour connaître, ressentir par moi-même, pour te comprendre, pour devenir toi. » Et la voix kurde, en face, vous répond « Mais tu n'as rien vu, Assour. Ce que tu penses y avoir vu, c'est le sentiment de culpabilité que reflète le miroir de ta conscience. » Vous racontez bien aussi dans ce livre l'impuissance du regard et tout ce qui nourrit aussi d'un côté comme de l'autre, la cécité et l'aveuglement.
Il faut quand même regarder. Quand j'étais à Diyarbakır, j'avais demandé à un ami de m'accompagner pour qu'il voie aussi de ses propres yeux. Il m'a répondu non, parce que j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise, j'ai pas envie de changer mes idées. Si j'y vais, je sais ce que je vais voir vont vraiment me mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut qu'on y aille pour regarder, qu'on soit forcé à voir ces choses. Pourquoi Diyarbakır? Parce que dans le Kurdistan turc, c'est la capitale. Et Sur, c'est la vieille ville. Pour dire avec les propos des Kurdes eux-mêmes, c'est le cœur et l'âme du Kurdistan. Et cet endroit a été totalement dévasté. Oui.
Et vous interrogez beaucoup aussi, Oya Baydar, dans cet échange, la question de la légitimité de la violence. Ça aussi, c'est une question qui est vieille comme le monde. Vous l'écrivez, être en butte à la persécution donne-t-il le droit de persécuter les autres? Ailleurs, dans cet échange toujours nourri entre ces deux femmes, vous écrivez quand le sens de la vie devient une résistance en soi, le noble but pour lequel on se bat ne fait que s'éloigner davantage, il devient flou, les règles de la guerre prennent le pas sur le reste, au cœur de la bataille, tu ne t'en rends pas compte, tu ne vas pas en plein combat te demander quel est ton but dans la vie, poser des questions ne va pas de pair avec la guerre, l'armée, le militantisme révolutionnaire. Et pourtant, c'est une question que vous vous êtes toujours posée. La violence est-elle légitime dans certaines situations ?
Oui,
je me pose toujours cette question. Et la violence ne peut jamais constituer une solution. Ça peut paraître comme une solution sur le moment, mais par contre, ça retournera toujours contre soi-même, créer de la violence, et du coup, on ne pourra plus jamais s'en sortir. C'est pour ça, justement, que les Turcs nationalistes... Et on a aussi les nationalistes kurdes, qui sont plus pro-guerre, ont critiqué ce livre.
Invité en plein jour, à l'occasion de la nuit des idées, la romancière turque Oya Bagdar est avec nous pour Dialogue avec un S sous les remparts, publié chez Phébus. Il est midi 22 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
À la fin de ce dialogue, Oya Bagdar, les deux femmes se demandent qui a gagné, qui a perdu. Qu'est-ce qu'on gagne à essayer de comprendre l'autre ?
On peut gagner des tas de choses. On peut aussi se trouver dans des situations très difficiles. Mais comme je le dis à la fin de ce livre, mon livre se termine avec les propos de Petit Prince de Saint-Exupéry. On gagnera énormément de choses pour notre conscience en tant que l'humanité.
Et vous, qu'est-ce qu'il vous reste de vos idéaux ? C'est déjà une question que vous vous êtes posée, Oya Bagdar, à travers « Et ne reste que des cendres », une question que vous avez soulevée dans votre précédent livre publié ici en France. En quoi croyez-vous encore plus que tout, Oya Bagdar ?
C'est difficile comme question. Je crois toujours au socialisme, à l'utopie socialiste. Nous avons commis des erreurs, oui.
Mais
un monde de paix, un monde en paix, sans discrimination, et il faut qu'on travaille. C'est ce travail-là qui nous rend humains.
On vous a surnommé la Françoise Sagan turque, l'auteur de Bonjour Tristesse, à qui vous aviez consacré votre premier roman. Elle a écrit, Françoise Sagan, « La liberté de penser et de mal penser et de penser peu. La liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire d'être moi-même puisque je n'étais rien qu'une patte modulable, mais celle de refuser les moules. » Ça, c'est ce qu'elle écrit dans Bonjour Tristesse. Vous, Oya Bagdar, quelle est votre définition à vous de la liberté ? Comment vous concevez votre propre liberté ?
Pour moi, la liberté, c'est de vivre dans un monde où les libertés des autres personnes seront aussi acquises. Si tout le monde n'est pas libre, personne ne peut l'être vraiment. Et je le crois vraiment, ça. C'est la seule chose que je peux dire sur la liberté. Et ma liberté personnelle, je pense que je l'ai un peu gagné avec les luttes que j'ai menées. C'est ça qui définit ma liberté. Je suis libre de rentrer en prison. Même en prison, je pense qu'on peut être libre.
Et libre d'en sortir ?
Bien sûr que c'est mieux à l'extérieur. Mais je peux aussi dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la même lutte, étaient en prison, et tous ceux comme moi, tous les gens se sentent très très mal quand ils sont en prison.
De la liberté à l'égalité, on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde, pas simplement en France ni aux États-Unis, on en parle aussi en Turquie, de la question de l'égalité homme-femme. À la question « Êtes-vous féministe ?», je vous propose d'écouter la réponse de la romancière Françoise Sagan. Elle disait non.
Non, je ne sais pas, j'ai jamais eu l'aide parce que... j'étais élevée par mon père d'être un homme charmant et après j'étais libre tout de suite, j'ai eu à dépendre d'un homme, ce qui change beaucoup la vie. Et toutes les relations que j'ai eues avec des hommes sont finies par l'affection, quoi. Je me suis pratiquement pas brouillée avec un homme avec qui j'ai vécu.
Ouais.
Et pour le reste, c'est tellement une question de personne, c'est très difficile de parler de génération. Mmh. Par exemple, par rapport aux enfants, moi j'ai eu deux fois, j'ai eu deux fois un enfant. Le premier homme m'a dit tu fais comme tu veux, et le second était fou de joie. Donc j'ai gardé le second enfant. Ça entraîne.
Les hommes que vous avez aimés, vous avez su transformer en amitié, conserver un lien durable qui représente
oui.
la vie.
Oui, bien sûr, enfin, plus ou moins, mais en général, oui.
C'est un grand talent, ça.
Oh, je crois que c'est pas tellement difficile si on a des, si on aime quelqu'un pour de bon. C'est justement réciproque, on a du mal à trouver un homme affect, je veux dire. C'est très, c'est, on ne s'amourage pas d'un homme affect, ou alors c'est vraiment un coup de physique qui passe vite fait, c'est pas des amours.
Et vous, êtes-vous féministe, Oya Baydar, en plus du reste?
Au sens propre du terme, je n'ai jamais été féministe.
Féministe militante.
Je n'ai jamais été militante féministe. Mais j'ai toujours été du côté de ceux qui étaient opprimés, discriminés. Et de ce point de vue-là, les droits des femmes, je les considère encore plus qu'avant. Peut-être c'est quelque chose de plus important pour moi. Peut-être une des raisons à ça, c'est que moi j'ai toujours vécu en liberté. Je trouve que j'étais très libre dans ma famille. Et dans ma famille, on considérait les femmes peut-être même plus que les hommes. Mon père était comme ça aussi. Et donc peut-être que je n'ai pas eu vraiment ma conscience de féministe. Mais les féministes en Turquie m'ont toujours dit que j'étais le meilleur féministe parmi elles. Je ne le sens pas du tout comme ça.
Et le combat des femmes kurdes, on pourrait en reparler aussi, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas anodin. Oya Baydar, si vous avez choisi de mettre en dialogue deux femmes dans cet ouvrage...
On dit toujours deux femmes.
On dit toujours deux femmes. Mais... On devrait dire quoi?
Ce sont les Turcs et les Kurdes.
Ah bon, vous m'avez dit au début qu'il ne fallait pas le dire comme ça. Merci beaucoup, merci mille fois Oya Baydar. Dialogue sous les remparts, traduit du turc par Valérie Gay Aksoy, ou Aksoy, j'espère.
Aksoy,
voilà, je n'écorche pas son nom. Merci beaucoup à vous, Alijane Teyla, d'avoir traduit cet entretien. Merci Oya Baydar.
Merci.